Amis, frères et sœurs, accueillez avec douceur la parole plantée en vous, capable de vous sauver la vie. Devenez des artisans de la parole et pas seulement des auditeurs qui se berceraient d'illusions. Tels sont les mots de l'épître de Jacques, qui nous engage à nous tenir dans une présence vigilante, une veille de chaque instant pour sortir du prêt-à-penser, du prêt-à-croire, d'un langage qui dispense de porter soi-même le travail de la parole. Alors, amis, frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Que vous veniez pour la première fois ou que vous veniez régulièrement, soyez ici chez vous. Dans cette maison, nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, en particulier avec celles et ceux qui traversent un temps de deuil, de souffrance, de révolte, d'anéantissement, d'épreuve, d'incertitude, de cruelle solitude. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent ici même. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et merci à Aurélien Péter pour son accompagnement musical choisi spécialement pour ce culte. Prions. Éternel Dieu de la vie, nous te remercions pour ce jour et pour cette heure mise à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard au milieu de l'agitation de nos vies. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute, un temps de partage, un temps de prière et de louange, un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites tout simplement à vivre un temps où, par ton esprit, nous apprenons à nous retrouver les uns avec les autres, en communion avec le Christ. Louange à toi, ô Dieu. Et pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre le premier répond que vous trouverez au tout début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul sauveur. Je vous invite à vous lever. Nous prions avec les mots d'un extrait du psaume 86, prière de David. Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à ma voix suppliante. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand, tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur simple, que je craigne ton nom. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 86, les strophes 1, 2, 3 et 4. Et Aurélien joue le psaume une fois en entier. Prenez place. Un des scribes demanda à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Prions ensemble. Éternel, nous voici devant toi et nous te confions tout ce qui nous fait souffrir. Nous essayons de faire le bien que nous aimons et nous faisons le mal que nous n'aimons pas. Nous essayons de vivre une vie honnête et nous sommes pris en défaut parce que nous ne savons pas réellement aimer. Nous ne volons pas. Nous ne tuons pas. Nous ne disons pas de faux témoignages. Mais au-dedans de nous, ce ne sont que sentiments négatifs, mensonges, médisances, préjugés et désirs de mort. Chacun connaît ses torts. Chacun connaît ses faiblesses. Et tous ensemble, nos torts et nos faiblesses sont des montagnes. Éternel, viens à notre secours. Soulève ces montagnes, fais-les basculer dans la mer, que nous soyons enfin délivrés de cette pesanteur. Que nous puissions aimer à notre tour et libérer celles et ceux que tu places dans notre vie. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, mon ami, à celui qui croit que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible, à celui-là, Dieu accorde le pardon total et définitif, la paix et la joie. Parce que tu t'es reconnu devant Dieu comme incapable d'aimer, alors tu es maintenant sur le chemin de l'amour. Parce que tu t'es reconnu faible, tu es maintenant plus fort que les puissants de ce monde. Parce que tu t'es reconnu solitaire, il t'est donné une communauté d'hommes et de femmes, tes semblables. Alors relève-toi et va dans la joie que Dieu te donne. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Thank you. Avec les mots du pasteur Charles Wagner, nous dirons cette confession de foi. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore et toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices. Il combattra tous les combats. Il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin. Et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Dans l'évangile de Matthieu, nous lirons ce matin au chapitre 22, les versets 15 à 22. Les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » « Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rejoint. Exactement là où nous en sommes. Amen. Et à la fin du psautier français, il y a des petits chorales qui se promènent. Et je vous invite à prendre maintenant le choral numéro 45. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, sera ma sagesse. Je vous invite à vous lever et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Prions. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers sa mère. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité, la constance de tout ce que tu nous donnes, exige et promets. Amen. Amis, frères et sœurs, plusieurs expressions bibliques se retrouvent aisément dans notre langage commun de tous les jours, et celle-ci rendait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, est sûrement la plus connue. Le passage que nous venons d'entendre est le premier épisode d'une série de 4 discussions entre Jésus et ses opposants juifs, les pharisiens et les sadducéens, les pharisiens dont l'étymologie veut dire les séparés. Ce sont un groupe juif se conformant à une observance rigoureuse de la loi de Moïse, en privilégiant la tradition orale appelée le Talmud. Ils comptent sur leur propre force pour être vertueux et leur légalisme est si ostentatoire que Jésus les traite d'hypocrites. Les Sadducéens, c'est un autre groupe juif opposé aux pharisiens. Mais ils sont issus de la classe sacerdotale, celle des prêtres, essentiellement attachés à la loi écrite appelée la Torah. Les Sadducéens sont également d'une rigueur absolue et siègent au Sanhédrin. C'est devant eux que Jésus comparaîtra lors de son procès. Il y a encore 2 autres catégories de personnes qui s'opposent à Jésus, les Zélotes, qui ne sont pas nommés dans ce passage, et les Hérodiens. Alors les Zélotes ont choisi la lutte armée pour combattre les Romains. Ils croient à l'avènement du royaume de Dieu par la force. Ils se font un devoir religieux de ne pas se soumettre aux lois romaines. Donc, ils ne paient pas le tribut à César, tandis que les Hérodiens, considérés comme les collaborateurs de l'époque, appuient fortement le pouvoir occupant. Donc, les pharisiens, accompagnés des Hérodiens, interrogent Jésus à propos de la légitimité pour un juif pieux de donner sa participation au tribut que les provinces conquises payaient à l'empereur romain. Et c'est bien une question difficile qu'il pose à Jésus. Et plus difficile encore sera la réponse que Jésus va donner, car sa réponse risque bien de le positionner dans un camp au profit des uns au détriment des autres. En fait, c'est exactement là où l'attendent tous ses opposants. Tout le monde est d'accord pour tendre un piège à Jésus. Tout le monde a le sens inné de la discussion, et c'est pourquoi les responsables des différents mouvements prennent soin de placer la discussion sous le regard de Dieu. Alors, sans doute le ton est-il à la fois ironique et flatteur. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne. » Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, est-il écrit au verset 16. Alors mes amis, si nous faisons bien attention, ce verset 16 est extraordinaire. Les pharisiens disent vraiment la vérité sur Jésus. Jésus regarde le visage de celui ou celle qu'il a en face de lui, mais il ne se laisse influencer par personne. Parce qu'il regarde aussi au fond des cœurs, au-delà des apparences. Mais ce qui fait que Jésus les traite d'hypocrites, c'est parce qu'il connaît justement l'écart qu'il y a entre le visage qu'ils offrent, les paroles qu'ils prononcent, et le véritable intérieur qui les anime. Et ici, ce qui compte, c'est d'abord de tendre un piège à Jésus en espérant qu'il y tombe. Avec cette phrase introductive, ils obligent Jésus à répondre en toute sincérité et ils le placent avec eux sous le jugement de Dieu. On devine très vite combien la situation est complexe et ambiguë puisque la question croise plusieurs domaines relatifs à la défiance des Juifs à l'égard des Romains, à savoir la divination de l'empereur, la collaboration avec l'occupant païen, ce qui est normalement détesté, et l'appartenance à un courant juif contre un autre. À côté d'une question de droit, se pose le sentiment de mépris que les Juifs avaient à l'égard de tout ce qui se rapportait à la divinisation des empereurs romains, en particulier leur effigie et le texte imprimé sur la monnaie. Alors, la question est grave. Jésus va-t-il cautionner un homme qui se prend pour un dieu ? L'épisode est habituellement interprété comme plaçant Jésus en face de la possibilité de coopérer avec l'occupant romain, ennemi de la nation. Alors donner l'impôt, c'est renforcer la puissance de l'occupant et s'avouer vaincu. C'est conforter le découragement au lieu de susciter la résistance. Mais en même temps, ils espèrent coincer Jésus entre leurs divergences religieuses. En effet, quelle que soit sa réponse, Jésus ne peut que s'attirer à coup sûr la fureur d'une partie des assistants. Et Jésus est sans doute, et sans nul doute, attentif au danger qui le menace. Il est à Jérusalem et l'étau se resserre. Et que répond Jésus ? Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais que veut-il dire ? On peut comprendre que Jésus sépare le pouvoir politique, temporel, du pouvoir religieux et spirituel. D'un côté, il y a César, et de l'autre, il y a Dieu. Il ne faut pas les confondre. Mais peut-être faut-il définir ce qui appartient à César, qui est l'occupant. Et en faisant cette séparation, Jésus rappelle que César n'est qu'un homme et rien d'autre, même si son effigie se trouve sur la pièce de monnaie. Jésus dit aussi que Dieu est Dieu, autrement dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Et si César veut se prendre pour un Dieu, comme c'était le cas, eh bien c'est le problème de César et non de celui des Juifs. En revanche, les Juifs ne doivent pas oublier Dieu au profit de César. Et finalement, Jésus situe le domaine du politique et de l'économie dans le monde profane et demande à ses interlocuteurs de faire de même. Alors, pour comprendre encore un peu plus cette discussion, faisons quelques minutes d'histoire. Rappelons-nous que les Romains ont généralement respecté les religions ou les coutumes locales, si diverses fussent-elles, des peuples qu'ils avaient conquis. En raison de cette conviction, les Romains se sont accommodés, particulièrement en Judée, de la religion juive. Pour certains historiens, cette attitude relève plus du calcul politique que d'une volonté religieuse de tolérance. Mais elle impliquait une reconnaissance de la valeur juridique de la Torah pour les fautes ne mettant pas en cause la suprématie politique romaine. On retrouvera d'ailleurs ce dilemme au moment du procès de Jésus, où les autorités juives voudront se retrancher derrière la loi romaine et Ponce Pilate les renverra vers la loi juive. Progressivement, la monnaie juive est remplacée par la monnaie émise par les gouverneurs romains, qui d'ordinaire est frappée de l'effigie de l'empereur. Et sans doute, en Judée, les Romains évitent de frapper monnaie à l'effigie de l'empereur pour ne pas choquer les Juifs qui refusaient toute représentation humaine. Pourtant, des pièces frappées à l'effigie de l'empereur devaient circuler, si l'on en croit la discussion entre Jésus et les Juifs dans notre passage d'aujourd'hui. Donc, nous pouvons recevoir ce passage comme étant un débat qui peut être lu au niveau purement économique. Si les interlocuteurs de Jésus sont en mesure de lui montrer un denier à l'effigie de l'empereur romain, c'est qu'ils font du commerce avec les Romains. Bon, il faut bien vivre, bien sûr. Alors, ne pas payer l'impôt à César serait prêcher la désobéissance aux Romains, et ça, Jésus s'y refuse. Parce que ne pas payer l'impôt donnerait alors l'obligation de refuser toute sorte de commerce avec les Romains. Et ce n'est pas la mission de Jésus que d'annoncer une telle chose. Jésus n'a pas d'idéologie, il n'a pas de fanatisme, il n'a pas d'intolérance non plus. Jésus veut prouver autre chose. À ce moment précis, Il veut faire prendre conscience à ses interlocuteurs de leurs propres contradictions. En privé, les pharisiens condamnent le paiement de l'impôt et la collaboration avec Rome. En public, ils se déclarent séparés, opposés au paganisme des Romains. Ce sont eux les vrais juifs pieux. Jésus les amène à tirer de leur bourse une pièce d'argent, et c'est bien une pièce romaine qu'ils sortent. La présence de cette pièce démontre le hiatus qu'il y a entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent. Et Jésus est plutôt un prophète comme ceux de l'Ancien Testament. Il ne se perd pas dans des considérations théoriques abstraites. Il dénonce les états d'âme, les pratiques religieuses des pharisiens qui contredisent leur attitude à l'égard des frères. Et il dira toujours aux pharisiens, « Vous négligez dans la loi de Moïse ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Alors les pharisiens peuvent se soumettre au devoir imposé par l'occupant, mais ils ne doivent pas pour autant oublier leur devoir à l'égard de leurs frères. S'il y a l'image de l'empereur sur la pièce de monnaie, c'est une chose qui rappelle la difficulté du temps présent, à savoir l'occupation romaine. Mais ils ne doivent pas oublier une autre image, celle de l'homme, image de Dieu, qui n'est sur aucune pièce de monnaie, mais inscrite sur le visage de tous les prochains, créés à l'image de Dieu selon le livre de la Genèse. Et cela nous concerne aussi aujourd'hui. Dans la foi qui est la nôtre, nous disons que l'être humain est créé à l'image de Dieu. C'est une parole de foi que nous confirmons par le respect et la dignité de tout être humain, le respect aussi de la création, la nature, la terre qui nous est confiée. En tant que croyants, nous véhiculons l'image de Dieu. Et la parole de Jésus ce matin nous rappelle que c'est sa revendication en faveur de toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont à travers le monde avilis par le pouvoir de l'argent. Et si nous croyons que tout être humain est créé à l'image de Dieu, alors personne ne doit être oublié dans notre amour du prochain. On peut voir beaucoup de choses dans ce texte, comme par exemple une sorte d'anticipation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, par exemple. Ou encore, évidemment, je ne vous apprends rien, la fameuse théologie des deux règnes visant à séparer les domaines, le règne de la religion, qui serait du domaine privé, de la spiritualité, qui s'interdit toute vigilance critique de l'État, et le règne de l'État, qui est souverain pour tout ce qui est gouvernement de la cité, l'économie ou la morale. Luther, le réformateur, reprendra cette théologie attribuée à Augustin d'Hippone ou saint Augustin, en particulier dans son commentaire de la lettre aux Romains. Et Luther veut encourager la réflexion critique au sujet des deux règnes, le règne temporel, celui du monde régi par la loi à laquelle il se soumet, et le règne spirituel, en particulier celui de l'Évangile, régi par la grâce. D'un côté, l'être humain, en tant qu'être humain présent dans une société régie par des lois naturelles ou sociales qui gouvernent, et de l'autre, l'être humain, en tant que croyant, accueillant dans sa vie la grâce de Dieu au moyen de la foi, permettant la transformation de son être intérieur sans y être contraint. Alors, avons-nous le choix entre Dieu et César? Dans sa réponse, au fond, Jésus ne s'oppose pas à César et il ne privilégie pas Dieu pour autant. Au fond, les deux s'imbriquent. Si nous voulons aimer Dieu, il nous faut aimer aussi, et peut-être même d'abord, notre prochain. Et nous vivons dans le monde dans lequel nous sommes, non pour le détester d'emblée, parce qu'il serait de toute façon mauvais, mais pour l'aider à le transformer si besoin est. Et nous avons donc notre part de responsabilité à prendre dans la société, dans la politique, ne serait-ce que pour défendre le droit du plus petit, du plus pauvre, du laissé pour compte. de celui ou celle qui n'aura jamais la force ou la vaillance de prendre la parole par lui-même ou pour lui-même. Pour illustrer mon propos, pensons seulement aux aumôniers de prison, pour ne parler que d'eux, qui, en vertu de la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État, interviennent régulièrement dans les prisons de la République. Par cette loi de 1905, l'État s'est engagé à ce que chaque personne privée de se rendre librement sur un lieu de culte puisse être accompagnée sur place par un représentant de son culte afin que soit préservée sa liberté de culte. Lorsqu'un aumônier accompagne quelqu'un en prison, il ne se substitue pas à César, en ce sens qu'il n'entrave en rien le fonctionnement carcéral ni le fonctionnement judiciaire. Un procès, s'il doit y avoir procès, aura lieu et un verdict sera prononcé et appliqué. Ce qui doit être rendu à César sera rendu à César. Mais la présence de l'aumônier, voulue par la loi des hommes, permettra que ce qui doit être rendu à Dieu le soit. L'aumônier pourra, le cas échéant, suggérer aux représentants de la justice ce qui peut être changé ou amélioré en détention. Et dans son accompagnement, l'aumônier annoncera ou rappellera à la personne détenue que Dieu l'aime indépendamment de ce qu'elle a fait, que Dieu ne la confond pas avec ses actes, quels qu'ils soient. C'est une mission délicate, parfois inaudible, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Mais c'est une parole d'espérance et de liberté que de dire à cette personne qu'elle n'est pas réduite à ses actes. C'est un réconfort non seulement pour elle, mais aussi pour chacun et chacune de nous. Au fond, nous valons tous beaucoup plus que ce que nous faisons, que ce soit en mal ou en bien. Et c'est une très belle leçon de liberté que Jésus offre à ceux qui voulaient lui tendre un piège. C'est aussi une belle leçon de liberté pour nous-mêmes. Par cette parole, le Christ rejoint chacun, chacune dans notre humus, c'est-à-dire à la fois l'humanité et l'humilité de notre vie. Ne rien absolutiser, ni Dieu, ni César, pour garder toujours à l'esprit le discernement de ce qu'il faut faire et dire en direction de notre prochain. Amen. Si vous me permettez un jeu de mots, là, avec cette musique, c'est vraiment quelque chose que nous avons rendu à César, mais Franck, celui-là. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à chanter le cantique numéro 216, les strophes 1, 2 et 3, intitulé « Seigneur, que ton règne adorable ». Et je vous invite à vous lever. Prenez place. Et je cède la parole à Aurore Sagliot-Thébeau pour quelques annonces.
Merci Agnès. Merci à vous d'avoir bravé la pluie. Parce que pour ceux qui sont arrivés à 10h30, la pluie était très 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 forte. D'avoir bravé aussi les métros fermés et de n'être pas encore parti en vacances. Vraiment, merci d'être venus aussi nombreux, ou de venir de province, parce que je vois quelques têtes connues venant de Provence également. Vraiment, un grand merci d'être avec nous et d'admirer cet échafaudage. Alors, pour mémoire, on a commencé le projet de restauration de nos vitraux. Je regardais tout à l'heure sur mon téléphone, il y a exactement 1 an et 2 jours. Et nous devrions arriver à le terminer pour le 17 décembre, la fête de Noël des enfants. Je vois les scouts qui sont là aussi, auxquels les scouts viendront, donc vous devriez me rejoindre, les scouts, si vous avez quelque chose à vendre tout à l'heure, rejoignez-moi. Donc on devrait arriver à faire, grâce à vous, grâce à la Fondation du protestantisme et aux dons que vous avez donnés à notre fondation, restaurer tous nos vitraux en 1 an et demi, 1 an et 3 mois. Donc vraiment un grand, grand merci. Également un grand merci à la ville de Paris, avec lequel, et le conservateur de la ville de Paris, avec lequel nous avons mis beaucoup d'intelligence Parce que, imaginez, le projet initialement, on devait avoir des échafaudages pour chacune des baies vitrées. Donc, je pense qu'on aurait eu un peu de mal. Donc, souvenez-vous, on a commencé avec des cordistes. Je ne sais pas si vous voyez encore la photo au milieu du temple qu'on avait beaucoup diffusée. Puis après, on a eu une immense nacelle. Et là, on est obligé d'avoir un échafaudage de ce côté-là et également de l'autre côté, parce que cette baie vitrée, pour les plus anciens, savent qu'elle est sous filet depuis de nombreuses années, parce que vraiment, il va falloir la déposer entièrement. Et je fais le lien avec la pluie. Il ne pleut plus dans le temple, puisque nous avons eu quand même des centaines et des centaines de points de casse qui ont été réparés grâce à ce projet lumineux. Vraiment, un grand merci à vous. Quelques annonces. Lundi, donc c'est les vacances scolaires, donc c'est plus calme, mais lundi, Anne Jenkins m'a confirmé qu'il y aurait cours de peinture, pour ceux qui sont de passage à Paris ou qui ont l'habitude de venir. Vraiment, vous êtes tous les bienvenus le lundi matin. Jeudi, pause spirituelle avec toi, ici même.
Oui.
Et encore merci aussi à ceux qui ont accepté la semaine dernière d'aller en urgence à la salle Mono, parce qu'il faut comprendre qu'on a ces travaux, nous avons un couple qui s'appelle les Delins, qui sont extrêmement impactés, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et c'est aussi un énorme boulot de, vraiment un grand merci à toi, à eux et également à Gérard, de nettoyer et de s'assurer que le dimanche, tout est impeccable, parce que le temple était sans dessus-dessous toute la semaine. Et ça va continuer. Donc vraiment un grand merci à vous. Donc, lundi, cours de peinture, jeudi, pause spirituelle. Dimanche prochain, culte de la réformation.
Avec baptême.
Et Sainte-Seine.
Oui.
Et pour ceux qui n'étaient pas là, dont toi d'ailleurs, à la dernière Sainte-Seine, nous avons réussi à faire un grand cercle.
Oui.
Et là, on va y arriver. Bon, le cercle ne va pas être totalement cercle à cause de l'échafaudage, mais on va y arriver. Donc ceux qui n'ont pas connu ce grand moment, qu'on n'avait pas connu à l'oratoire depuis des dizaines et des dizaines d'années, vraiment revenez, on se lève pour la scène et nous sommes tous au même niveau pour la scène dimanche prochain. Les scouts veulent dire un mot ou pas? On vous entend. Venez me rejoindre. Un petit mot sur Béatrice Cléromézir et Jean-Pierre Clairaut qui sont ce week-end
à 7.
C'est à 7, oui.
Ah oui.
À 7 pour les journées du protestantisme libéral.
Oui.
Nous allons mettre en ligne la semaine prochaine leur texte qui a eu un succès colossal hier et leur intervention. Et également, nous allons mettre en ligne, pour information, Jean-Pierre Clairaut, souvenez-vous, était intervenu sur Pascal. Il a été invité par le Collège de France il y a 15 jours. Il a réussi à citer la Bible en parlant de Pascal au Collège de France. Nous mettrons en lien aussi sa vidéo, mais son intervention est également fabuleuse. Merci à vous. Je passe la parole aux scouts qui ont quelque chose à vous vendre sous la pluie tout à l'heure.
Merci. Oui, nous vendons Nous organisons une vente de gâteaux devant le temple. Nous avons des gâteaux salés, des boissons chaudes, ainsi que des sucreries. Donc n'hésitez pas à venir. Merci. C'est pour financer le camp et des dépenses pour le clan. Nous faisons partie du groupe de l'oratoire et nous sommes plus précisément l'équipe des Goélands. Merci.
Voilà, donc gardez la monnaie pour le clan des Goélands. Nous prenons, nous, la carte bleue et les billets. On peut laisser quelques billets pour vous aussi, hein, bien entendu. C'est le moment de l'offrande. Vraiment, avec joie, le don joyeux. Tous les travaux que nous avons faits ont été, eux, financés par la Fondation de l'Oratoire. Là, vraiment, votre offrande est pour notre Église, pour nos pasteurs, pour nos enfants et le libéralisme. Merci à vous.
Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Ce petit temps de silence juste avant de prononcer nos mots, c'est notre manière de nous placer devant toi, éternel Dieu de la vie. Et nous voulons te prier pour celles et ceux qui sont dans la nuit. Dans la nuit de la guerre, dans la nuit de la solitude, de la souffrance, dans la nuit du doute, celles et ceux qui te cherchent désespérément parce qu'ils croient que tu les as abandonnés, nous te confions celles et ceux que l'avenir paralyse, dont l'espérance est blessée, et toujours et encore, pour celles et ceux qui ont perdu un être aimé et qui luttent contre le vertige du silence et de l'absence. Nous te prions pour celles et ceux qui réparent, qui soigne, qui opère, parfois dans des conditions inimaginables, qui tiennent la main, qui réconfortent, qui redonnent confiance, tout simplement. Nous te confions celles et ceux qui reprennent inlassablement le chemin de la diplomatie, qui s'assoient à la table du dialogue si c'est possible, et travaillent à l'apaisement par le discernement. Éternel Dieu de la vie, tu regardes nos visages et tu sondes nos cœurs. Nous te les présentons, nos visages, et nous t'ouvrons aussi la vérité de nos cœurs, celle que personne ne voit, mais que toi, tu connais. Et tu sais combien il peut y avoir cette distance entre ce que nous montrons et ce qui nous anime intérieurement. Alors viens par ton amour et ton esprit transformer tout ce qui, à l'intérieur de notre être, a besoin d'être changé, éclairé, sauvé. Au milieu de notre monde en souffrance, à quelque niveau que ce soit, nous te prions de faire de nous, là où nous sommes, des artisans de paix. Et que l'amour du plus petit de nos prochains demeure la motivation de nos actions et de nos engagements. Nous te prions pour celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière, que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Celles et ceux qui réclament la chaleur de notre présence, même à distance. Et donne-nous le courage de dénoncer ce qui nous semble injuste quand la loi du monde déraille, pour redire ce qui est juste par rapport à ton amour, à ta grâce, même lorsque le plus grand nombre dit l'inverse. Donne-nous d'aimer encore et toujours ce monde qui est le nôtre, même s'il est violent, afin que nous apportions, si peu que ce soit, la douceur de ta paix. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen.
Bon dimanche à tous, regardez le soleil, regardez l'orgue qui est illuminé par le soleil et les scouts, vraiment les goélands, ne les oubliez pas, elles ont assisté au culte, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, donc vraiment encouragez-les s'il vous plaît. Merci à vous.
Bon dimanche.
Bon dimanche.